France Inter.
Bonjour à tous. L'avalanche d'hier à Val Thorens a été mortelle. On apprend ce matin que l'homme retrouvé enseveli hier est mort à l'hôpital. Le risque d'avalanche est encore très fort. Vigilance orange après les chutes de neige exceptionnelles. D'où les appels à la prudence répétés sur les pistes de ski aujourd'hui. Les États-Unis continuent de souffler le chaud et le froid auprès de l'Ukraine et des Européens. Donald Trump reconnaît que Kiev n'est pas responsable de la guerre. Mais son chef de la diplomatie demande à demi-mot à l'Europe de lever les sanctions contre la Russie pour parvenir à la paix. L'actualité, c'est aussi l'inquiétude des syndicats français pour l'emploi face aux droits de douane américains. C'est Safran qui boycotte les villes vertes. Bonjour Tristan Barraud.
Bonjour.
L'entreprise d'aéronautique et d'armement n'installera pas d'usine dans une commune dirigée par les écologistes.
Oui, après des jets de tomates à Rennes, petite phrase de la direction de Safran à l'Assemblée nationale, alors qu'une usine doit voir le jour, les écologistes nient les faits, ils pointent aussi des incohérences dans le discours de l'entreprise.
Vos explications à suivre. On vous fera aussi visiter l'exposition exceptionnelle consacrée au photographe Robert Doisneau à Paris et vous ferez la connaissance du Bodø Glimt, premier club norvégien de foot qualifié en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Puis dans la seconde partie de ce 13-14, la culture française fait ses comptes et les voit fondre. La plupart des événements, des troupes, des structures touchées de plein fouet par les économies budgétaires réclamées par le gouvernement. Comment s'adapter? Quelles solutions? Quelles premières conséquences? Toutes ces questions et les vôtres à nos invités au 01 45 24 7000. De la culture encore à partir de 13h45, de la musique surtout avec une semaine dans leur vie, les musiciens de bal du Berry, cette semaine un jeune accordéoniste avec Cécile Bidot. Dans C'est la France, Jean-Baptiste René du journal L'Équipe nous replonge dans l'été olympique avec l'arrivée à Marseille du cheval de la cérémonie d'ouverture. Et musique encore, semaine spéciale Jacques Brel, le chanteur belge Félix Radu demande Madeleine à Frédéric Pommier. Voici le 13-14 de France Inter. Bonjour, bienvenue.
France Inter.
Les chutes de neige jamais vues depuis 20 ans en Savoie en cette période de l'année ont donc fait une victime. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
On l'a appris il y a quelques minutes, la personne retrouvée ensevelie sous une avalanche hier à Val Thorens est décédée.
Oui, c'est un jeune Anglais âgé de 27 ans en vacances dans un centre de vacances UCPA à Val Thorens. Il était venu en Savoie avec d'autres amis britanniques. Hier en fin de journée, il a donc été pris dans cette avalanche et transféré en urgence à l'hôpital de Grenoble où il a été pris en charge, mais il a été déclaré mort hier soir, précise le parquet d'Albertville, en charge désormais de l'enquête pour déterminer les circonstances précises de cette avalanche.
Alors ce matin, Mathieu, tout presque est revenu à la normale hein, après les intempéries d'hier. Il reste quelques centaines de foyers privés d'électricité, mais à Tignes notamment, où les habitants étaient confinés, l'accès à la station a rouvert. Il y a déjà beaucoup de monde sur les pistes aujourd'hui et dans ce contexte, il faut rester très prudent.
Le risque reste fort. 4 sur 5 sur les chaînes européennes du risque avalanche. Ces chutes massive de neige et ce grand soleil aujourd'hui, c'est le cocktail idéal pour le départ de grandes coulées. Stéphane Bornet, le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, appelle les skieurs à faire très attention.
C'est clairement en fait le scénario du pire. En fait, on est sur la fin de la saison. Ils ont envie de profiter de ces belles conditions. À l'heure où je vous parle, les paysages, ils sont juste fantastiques. Et on a envie d'aller pratiquer le ski un petit peu de partout. Néanmoins, des avalanches potentiellement de taille 3, donc de grande ampleur, peuvent encore se produire ou vont peut-être se produire dans la journée.
Un risque donc de grandes coulées de neige et un appel à bien rester sur les pistes des domaines skiables dans les jours à venir.
Parce qu'il y a du monde et il va y en avoir encore. C'est le début des vacances dans la dernière zone où se trouve la Savoie, justement, où week-end de Pâques. Les stations, Mathieu, ne pouvaient pas rêver mieux en termes de conditions à cette période de l'année.
Les images de neige sont impressionnantes sur les webcams des stations, comme aux Arcs, où le directeur de l'Office de tourisme, Éric Chevalier, incite tout le monde à faire attention.
Tout est blanc, du fond de vallée à Bourg-Saint-Maurice jusqu'au sommet de l'Aiguille Rouge à 3200 mètres, c'est incroyable. Le domaine de montagne ouvre petit à petit, parce que comme vous l'avez vu, on a des risques d'avalanche qui restent élevés, donc il faut bien rester sur les pistes.
Même son de cloche à Tignes, au cœur de l'épisode de forte chute de neige hier. En plus, le directeur de la station, Frédéric Porte, voit énormément de monde sur les skis depuis ce matin.
Il a fallu évidemment faire des sécurisations, anticiper des déclenchements d'avalanches maîtrisés. Et puis ouvrir progressivement les différents secteurs.
La station s'attend à de nombreuses réservations de dernière minute pour l'occasion.
Mathieu Bonnour, ces intempéries d'hier ont donc fait un mort en France, on le disait. Ils ont aussi fait trois victimes en Italie, deux personnes portées disparues. Un homme de 64 ans et son fils de 33 ans ont été retrouvés ce matin en Vénétie. Ils ont été emportés par la crue d'un torrent. Hier déjà, un nonagénaire a été retrouvé mort dans sa maison du Piémont inondés. On le disait, c'est le week-end de Pâques. Prudence aussi donc sur les routes, d'autant que Bison Futé classe ce vendredi rouge dans le sens des départs dans toute la France, orange dans le sens des retours. Demain, ce sera encore rouge dans un grand quart nord-ouest du pays. La paix semble toujours bien loin en Ukraine, malgré la multiplication des discussions diplomatiques ces dernières semaines, les dernières en date à Paris hier. La Russie a encore fait des victimes civiles cette nuit. Des frappes sur Kharkiv et Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 2 morts et 40 blessés d'après les autorités locales. Hier soir, léger changement de ton de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Le président américain dit ne pas tenir le président Volodymyr Zelensky pour responsable du conflit avec la Russie et affirme que l'accord sur les minerais ukrainiens sera signé la semaine prochaine. Hier, c'est donc tenu à Paris pour évoquer la paix, la première réunion impliquant à la fois les Européens, les Ukrainiens et les Américains avec la présence du secrétaire d'État Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui sur le tarmac du Bourget, juste avant de repartir, a prévenu « Washington a d'autres priorités que l'Ukraine », dit-il, et il renvoie les Européens à leurs responsabilités.
Je pense que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne peuvent nous aider à nous rapprocher d'une solution à faire avancer les choses. Ils ont été utiles, constructifs, on a travaillé sur leur contribution, on pense que c'est important. Je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'une partie des sanctions contre la Russie, une bonne partie même, vient des Européens, que nous ne pouvons pas les lever et ça pourrait faire partie d'un accord. C'est leur continent, tout se passe en Europe, donc oui, les puissances européennes ont des intérêts dans ce dossier, nous reconnaissons.
Marco Rubio traduit par Nicolas Teilhard. Emmanuel Macron a lui fait état d'une discussion positive et constructive. Terme repris également par la présidence ukrainienne. Puis Marco Rubio a appelé son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour lui faire part des échanges de cette journée. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Kevin.
Correspondant de France Inter en Russie. Si les Occidentaux sont sortis globalement satisfaits de cette réunion, côté russe, on considère plutôt que ces discussions ne mène pas à grand-chose.
Oui, la rhétorique ne change pas au Kremlin. Hein. Moscou n'a vu dans la réunion d'hier à Paris que la volonté de l'Europe de poursuivre la guerre. Hein. Je cite, « Il est peu probable que cela contribue à trouver des voies de règlement », a affirmé ce matin le porte-parole de la présidence, Dimitri Peskov, qui n'a absolument pas ouvert la porte vers une trêve. Aucune discussion n'est prévue dans un avenir proche, a-t-il dit. Il reste encore beaucoup de questions difficiles à régler, façon de sous-entendre que tout cela va prendre du temps, et des mots donc qui tranchent avec ceux de Marco Rubio, qui disait donc, vous l'avez entendu, que les États-Unis pourraient sortir du processus si des avancées concrètes n'apparaissent pas rapidement. Le Kremlin qui précise également que pour Moscou, le moratoire sur les frappes sur les installations énergétiques a expiré. Cette trêve partielle, hein, qui datait d'il y a un mois, n'a jamais vraiment été respectée, mais elle représentait jusqu'ici la seule timide avancée vers la paix. Vue de Moscou, donc, la réunion de Paris aura surtout permis de redéfinir les lignes rouges de la Russie, notamment l'envoi de troupes européennes en Ukraine pour garantir un éventuel accord de paix qui semble bien lointain aujourd'hui.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour Inter. La Russie mène-t-elle sa guerre d'agression contre l'Ukraine en utilisant des armes chinoises? C'est en tout cas ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien accuse Pékin de fournir des armes à Moscou et même d'en produire certaines directement sur le territoire russe. Éric Bigala, la Chine a répondu ce matin à ces accusations ukrainiennes.
C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a lui-même porté l'accusation hier après-midi lors d'une conférence de presse à Kiev.
Nous avons reçu des informations comme quoi la Chine fournit des armes à la Fédération de Russie. Et nous sommes prêts à en parler en détail. Aujourd'hui, nous avons des informations de nos services de sécurité et de renseignement concernant la poudre à canon, l'artillerie.
Ce matin, la Chine, par la voix d'un des porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, démentait l'accusation, assurant que Pékin, je cite, « n'avait jamais fourni d'armes létales à aucune des parties au conflit ». Mais le président Zelensky est allé plus loin dans ses accusations, promettant d'autres révélations.
Je crois que nous pourrons en parler beaucoup plus en détail la semaine prochaine, spécialement à propos des données qui nous laissent croire que des représentants chinois sont impliqués dans la production de certains armements sur le territoire russe.
Les armements que la Chine aurait pu fournir à la Russie sont légion, notamment en artillerie. Beaucoup des canons produits par la Chine sont des copies de canons soviétiques, difficiles à distinguer de canons russes sur le terrain.
Éric Biegala, spécialiste des questions de défense à la rédaction internationale de France Inter. Les États-Unis ont d'autres priorités donc que l'Ukraine, a dit Marco Rubio, parmi lesquelles la situation au Proche-Orient. Hier soir, l'armée américaine a annoncé avoir détruit un port pétrolier utilisé par les rebelles houthis du Yémen, allié du Hamas palestinien. Le dernier bilan fourni par les houthis fait état de 58 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Le Hamas dénonce, je cite, une agression flagrante. L'Iran parle de son côté de frappe barbare. Quant aux États-Unis même, voilà les premières conséquences concrètes des attaques menées par Donald Trump contre Harvard, deux jours après avoir supprimé plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales. Plusieurs chercheurs de la prestigieuse université ont reçu un mail leur intimant d'arrêter le travail sur le champ. C'est le cas de Sarah Fortune, elle est chef de la chaire d'immunologie et de maladies infectieuses. Elle dirige notamment un programme sur la tuberculose.
Je me suis réveillée à 6h du matin mardi et j'avais reçu un message de la direction des programmes. Il m'avait transféré un email du gouvernement fédéral me disant que je dois arrêter de travailler immédiatement sur mon contrat de recherche sur la protection immunitaire contre la tuberculose. Nous vous informons que les travaux doivent être suspendus. Cet ordre prend effet immédiatement. Mon programme coûte 60 millions de dollars. Donc c'est possible qu'on se soit retrouvé en haut de la pile parce que l'on coûte beaucoup d'argent. Je pense que mon programme n'est que le premier d'une longue série qui seront coupés. J'essaie de trouver une solution pour protéger le meilleur de la recherche dans le département. On travaille sur le paludisme, la tuberculose, le cancer. Comment va-t-on protéger tout cela s'il y a des coupes plus larges ?
Le témoignage de cette professeure d'Harvard, de la docteure Sarah Fortune, recueilli et traduit par Marie Mollet. L'autre grand dossier américain du moment qui concerne cette fois nos propres relations avec les États-Unis, c'est bien sûr la question de l'augmentation des droits de douane sur les produits importés sur le territoire américain. Après avoir menacé de les augmenter très fortement pour la plupart des pays du monde, Donald Trump les a ramenés à 10% sur quasiment tout. Pour 3 mois, se sont donc rouvertes des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. En attendant, c'est l'incertitude pour de nombreuses filières françaises qui exportent. D'où cette réunion ce matin au ministère de l'économie. Après les patrons, ce sont les syndicats qui ont été reçus. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous étiez à Bercy, les centrales qui sont venues faire part de leurs inquiétudes sur l'emploi notamment.
Oui, une crainte clairement exprimée par Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.
Il y a des entreprises particulièrement exposées, c'est vrai, mais toutes les entreprises françaises n'exportent pas aux États-Unis. Et nous, on commence à avoir des retours d'équipe qui nous disent il va y avoir des effets d'aubaine, des entreprises qui vont restructurer.
Face à ces entreprises qui pourraient être tentées de profiter de la situation, la CFDT demande que plus de moyens soient donnés aux représentants du personnel, qu'ils puissent avoir un réel pouvoir de contrôle de ces potentielles restructurations à venir. Les syndicats venus chercher des garde-fous, Nicolas Blanc était à la réunion ce matin pour la CFE-CGC.
Ce qu'on a demandé, c'est vraiment une méthode aujourd'hui, donc des cycles éventuellement toutes les semaines, tous les mois de se revoir, mais au-delà, il ne faut pas que ça soit un one shot, quoi, qu'on se voit une fois, qu'on nous explique, écoutez, oui, on va s'organiser, etc. Mais finalement, on n'a pas de vision.
Sur ce point, le gouvernement a entendu et des rendez-vous réguliers seront organisés. Le premier avant la fin du mois sur les syndicats. D'ici là, la CGT, sa secrétaire générale Sophie Binet, en appelle à des gestes forts de la part du patronat.
Par exemple, si LVMH dit qu'ils suspendent tous leurs investissements aux États-Unis, évidemment que ça, c'est un point d'appui. Il est temps de refonder le commerce international sur un juste échange.
En tout, le rendez-vous de ce matin avec les syndicats aura duré 2 heures. Un échange qualifié de nécessaire par le ministre de l'économie.
Maxime Debs, service économie de France Inter. Là, il s'agit d'une affaire bien française, celle d'une entreprise, Safran, géant de l'aéronautique et de l'armement, qui décide de ne pas investir dans les villes dirigées par des maires écologiste. Tout part d'une polémique. À Rennes, les élus écologistes qui font partie de la majorité n'ont pas bien accueilli le projet d'installation d'une usine de pièces pour les moteurs des avions Rafale. Il y avait 500 emplois à la clé. Tristan Barraud, on vous retrouve. Le parti, les écologistes, a réagi après la petite phrase du patron de Safran en début de semaine.
Oui, une sortie rare dans la bouche d'un patron d'entreprise aussi sensible. Olivier Andriès, en début de semaine, était en commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustrialisation en France.
Quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Donc chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste.
À se faire accueillir par des tomates, le groupe local des écologistes que nous avons joint nie les faits. Il réécrit l'histoire, nous dit-on. Les élus locaux n'ont d'ailleurs pas empêché le projet, simplement posé des questions au regard des enjeux climatiques. Le député écologiste Charles Fournier pointe d'ailleurs les incohérences du discours de Safran dans cette affaire.
Pendant que le PDG de Safran se plaignait de ce qui aurait été dit à Rennes, dans le même temps, il négocie avec la métropole de Lyon pour une implantation à Lyon et il se trouve que le président de la métropole est un écologiste. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs discours.
Les écologistes lancent un carton d'invitation à la direction de Safran pour leur débat public fin avril sur l'avenir industriel du territoire. Et la polémique fait vivement réagir aujourd'hui. Soutien venu du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Il affirme être fier de son industrie aéronautique. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se dit prête à accueillir les 500 emplois de Safran. La maire de Romans-sur-Isère aussi, Marie-Hélène Toreval. Mais pour l'instant, le projet Arène n'est pas annulé. Il doit d'ailleurs être opérationnel en 2027.
Tristan Barraud pour ses explications. Service politique de France Inter. Et si la France et l'Angleterre s'échangeaient des migrants? Des discussions sont officiellement ouvertes entre le ministère de l'Intérieur français et le Royaume-Uni pour expérimenter ces échanges. Une expérimentation pour une durée limitée sur le principe de une personne pour une personne, une collaboration pour empêcher les traversées dangereuses des petites embarcations dans la Manche. En 2024, 36 800 migrants ont réussi à traverser la mer, 25% de plus qu'en 2023, et 78 personnes sont décédées en tentant cette traversée. Antoine Barège, vous avez eu l'entourage du ministre de l'Intérieur. Ces échanges, ils se feraient sous certaines conditions.
Oui, le ministère de l'Intérieur évoque une expérimentation pour une durée limitée. Il n'y a pas encore de date avancée, mais cela permettrait à certains migrants présents dans les camps de la Côte d'Opale, à Lonne-Plage, à Grande-Synthe ou à Calais par exemple, de rejoindre l'Angleterre légalement, sans avoir besoin donc d'emprunter les small boats, ces petits bateaux gonflables qui sont bien souvent surchargés, et sans avoir besoin de payer très cher des réseaux de passeurs. L'expérimentation porte sur la création d'une voie légale dans le détroit du Pas-de-Calais, uniquement pour faire du rapprochement familial. En contrepartie, l'Angleterre pourrait renvoyer en France des clandestins qui ont réussi à traverser. Un retour avec plusieurs conditions et qui pourrait dissuader, selon le ministère de l'Intérieur, les filières de passeurs. Le principe, c'est un migrant accepté en Angleterre pour un migrant renvoyé en France pour à terme déboucher sur un accord européen.
Antoine Barège, ICI Nord, ex-France Bleu, à Rennes. 4 personnes ont été interpellées depuis la fusillade qui a fait 4 blessés hier dans le quartier de Villejean, connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue dans la ville. Parmi les 5 assaillants, 3 ont ouvert le feu avec des fusils d'assaut d'après les premiers éléments de l'enquête. La scène a été filmée et tourne depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Il ne sera bientôt plus possible de mettre des commentaires Google sur des écoles, des collèges ou des lycées. Oui, c'était possible. Le géant du numérique va désactiver les avis et les notes des établissements scolaires sur son application Maps. Ceux déjà existants seront supprimés progressivement dès la fin du mois. Google justifie cette décision par la présence récurrente de contributions dites hors sujet ou nuisibles. Le ministère de l'Éducation et plusieurs syndicats d'enseignants s'en réjouissent. Bonjour Azaïs Perronin.
Bonjour.
Car ces espaces de notation étaient parfois devenus, il faut le dire, un défouloir public pour certains élèves ou pas.
Oui, je vous lis quelques exemples de commentaires que l'on peut y lire. Collège à éviter, professeur horrible, mon enfant a été victime de harcèlement. Ces espaces Google deviennent parfois des lieux de règlement de compte avec des commentaires vengeurs laissés à l'issue d'un cours qui se serait mal déroulé, par par exemple. La plupart du temps, ils sont mis sous le coup de la colère, explique un membre de l'Éducation nationale, régulièrement confronté à ce type de situation et qui voit venir dans son bureau des élèves 2 semaines plus tard, qui regrettent. Or, si la colère finit par redescendre, le commentaire lui reste et il porte préjudice à l'établissement, voire à l'enseignant qui est parfois nommément cité. Les professionnels de l'enseignement dénoncent aussi une marchandisation de l'éducation, mise sur le même plan que les restaurants ou les hôtels, avec une notation allant de 1 à 5. Une logique d'évaluation délétère, selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, premier syndicat du secondaire.
On se retrouve dans une logique consumériste qui n'est pas la logique du service public d'éducation. Si on rentre dans une logique d'évaluation où c'est la course aux j'aime et la course aux commentaires positifs qui détermine ce que c'est qu'un bon établissement, on pervertit complètement la logique de service public d'éducation qui est d'être au service de tout le monde en étant détaché de ces logiques marchandes.
Sophie Vénétité rappelle que l'évaluation d'un enseignant est déjà cadrée par des visites d'inspecteurs, des professionnels de l'éducation donc.
Azaïs Perronin, un observatoire pour lutter contre la désinformation en matière de santé va voir le jour. Annonce ce matin sur Inter de Yannick Noder, le ministre délégué à la santé qui met notamment en cause son homologue américain Robert Kennedy Jr. qui a plusieurs fois tenu des propos complotistes à propos des vaccins. Yannick Noder propose notamment de labelliser des sites internet ou de nommer des ambassadeurs contre la désinformation médicale.
France Inter, le journal de 13h. Kevin Dufraîche.
Le week-end de Pâques commence donc doucement. Réunion de famille, agneau et chocolat au programme, sûrement pour beaucoup d'entre vous. Il y a aussi une nouvelle tendance ces dernières années à cette période, adopter un lapin de Pâques. Donc, les enseignes d'animalerie, vous l'avez peut-être vu, font d'ailleurs des campagnes de pub en cette période. Mais le risque, c'est de voir les abandons de ces animaux exploser. Et c'est ce que constate cette association à Saint-Sulpice-d'Arnoux, c'est en Charente-Maritime. Ça s'appelle la maison de Loki et Julien Fleury s'y est rendu.
Ici, ne parlez pas de cages.
Alors, j'appelle pas ça des cages, j'appelle ça des enclos.
Une dizaine de lapins accueillis actuellement et autant de caractères.
Par exemple, là, on a Louis, c'est un lapin qui est complètement foufou, il court partout, il demande beaucoup d'attention. Et puis, par exemple, là, on a Étoile, c'est une petite lapine qui est quand même très craintive.
Une diversité qui fascine Fanny Mathieu, grande fan de lapins domestiques.
Ce sont des animaux qui ont besoin de nous comme les chiens pour le côté nourrissage, présence et tout ça. Et c'est aussi un peu ingrat comme les chats, nous snover et tout ça.
La présidente de la maison de Loki redoute cette période de Pâques avec ses opérations lapins dans les animaleries propices aux achats impulsifs.
Et malheureusement, les gens ne sont pas bien renseignés sur les besoins d'un lapin. Et surtout, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on en fait ? Et malheureusement, cela cause des abandons de lapins. C'est une vie qu'on a entre les mains.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, entretenir un lapin a un coût, plusieurs centaines d'euros par an entre vaccins et nourriture.
Un lapin, ça a besoin donc de foin à volonté. Plus on aura du foin de qualité, moins on aura de soucis de santé. Des légumes frais tous les jours et potentiellement des granulés et des friandises.
Et si vraiment un lapin vous tente, le conseil de Fanny, c'est de passer plutôt par des associations. Certes, les lapins proposés sont adultes, mais justement, ils sont devenus propres et leur caractère s'est affirmé.
La durée de vie d'un lapin est estimée entre 8 et 12 ans. Donc, nous avons des lapins qui peuvent passer de longues années dans leur famille.
Julien Fleury, ici La Rochelle. Les joueurs de l'Olympique lyonnais vont sans doute avoir mal à la tête longtemps en entendant résonner l'explosion de joie d'Old Trafford après la tête victorieuse d'Harry Maguire à la dernière minute hier de ce quart de finale fou de Ligue Europa de foot. Les Lyonnais éliminés après une défaite 5-4 sur la pelouse de Manchester United. Match dingue, autre exploit de cette soirée européenne, la qualification au tir au but face à la Lazio de Rome du Bodø Glimt, club norvégien. La Norvège en demi-finale d'une Coupe d'Europe, c'est une première. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bodø, je pense que nos auditeurs ne sont pas nombreux à connaître le nom de cette ville, qui se trouve au-delà du cercle polaire.
Oui, on va faire un petit point géographie. Bodø, ville de 50 000 habitants, située au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire, 4 heures d'ensoleillement maximum par jour dans l'année. Soleil de minuit du 2 juin au 4 juillet. Un stade, l'Asp Mira Stadium, 8 200 places, intercalé entre un fjord et la mer de Norvège. Ça, c'est pour la carte postale. Et une équipe, surtout, eh bien, qui soulève des montagnes cette saison en Ligue Europa. Première qualification, vous l'avez dit, de l'histoire du foot norvégien pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Qualification arrachée au tir au but face à la Lazio de Rome, historique du foot transalpin, et une joie, vous allez l'entendre, plus latine quand même que nordique, ils l'ont bien fêté cette qualification.
Vous avez raison d'être content.
Cette équipe de Bodø Glimt, c'est une équipe qui n'est pas forcément la plus réputée de Norvège. Les amateurs de foot connaissent surtout Molde, club qui a notamment formé un certain Erling Haaland, la superstar de Manchester City. Mais Bodø/Glimt, dont l'effectif est constitué de 95% de joueurs locaux, eh bien, est devenu une référence ces dernières années. 4 titres de champion. Et donc la Horde Jaune, c'est son surnom, hein, va désormais s'apprêter à envahir l'Angleterre avec une demi-finale face au club de Tottenham.
Julien Froment, et certes c'est très au nord, mais il fait 6 degrés à Boudeux aujourd'hui, c'est encore supportable. Le foot ce soir, c'est un derby, je n'ose pas dire breton de peur de me fâcher. Rennes-Nantes en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 20h45. Enfin, montrer qu'il est loin d'être celui qui a capté uniquement le célèbre baiser de l'hôtel de ville. Voilà l'objectif de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée Mayol à Paris, consacrée au travail de Robert Doisneau, l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Instant donné, c'est le nom de cette exposition qui réunit plus de 350 photos qui mettent en relief toute la diversité du travail de Doisneau, Alexandra Hakoun.
Sur la photo en noir et blanc, un homme droit comme un i.
Monsieur Ali à Vitry, en 1965, devant son décor à lui, avec une dignité.
Francine de Roudil est l'une des deux filles de Robert Doisneau. Elle est aussi co-commissaire de l'exposition.
C'est exactement la manière dont mon père photographie les gens qui n'ont rien. Le symbole même de ce qu'on cherche à montrer dans l'exposition.
Montrer que ce chantre de la banlieue et du Paris d'après-guerre, aux gamins tireurs de sonnettes et aux bistrots enfumés, qui occupent tout de même toute la première partie de l'exposition, était bien plus que cela. Un artiste qui s'est notamment longuement penché sur la condition humaine.
C'est un homme dont la conscience politique est née chez Renault. Il a compris ce qu'était la rudesse de la condition ouvrière. En 1945, il photographie les mineurs à Lens. On a l'impression d'une illustration de Zola.
Mais toujours de la bienveillance dans le regard de Doisneau, de l'humour aussi, de ses années chez Renault, dont il est renvoyé en 1939 pour cause de retards trop fréquents. On découvre aussi des photos à la composition extrêmement travaillée.
Chez Renault, il n'est pas en liberté. À partir du moment où il est licencié, il devient un photographe indépendant, cette construction de photos, on ne la retrouve pas. Le fond doit dominer la forme.
Surprise également dans l'espace dédié à ce que Doisneau, dès les années 60, appelle ses bricolages.
Les collages, les montages, il y a un côté très surréaliste, il y a surtout un goût du jeu.
Quant au fameux baiser de l'hôtel de ville,
photo un peu monstrueuse qui a un peu tout bouffé.
Il est là, bien sûr, mais dans une mise en scène surprise qu'on vous laisse découvrir.
Alexandra Hakoun et cette exposition Doisneau donc au musée Mayol, c'est jusqu'au 12 octobre à Paris, bientôt 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Et puis dans une minute, on évoque la situation du monde de la culture, confronté depuis plusieurs mois à des baisses de budget, notamment en raison des efforts financiers demandés aux collectivités locales, alors que se tiennent des états généraux de la culture à Avignon. Nous serons avec la maire et des acteurs de ce secteur de la culture. Vos questions au 01 45 24 7000. Notre feuilleton dans le Berry, toute cette semaine, dernier épisode avec les musiciens de Bâle, rencontre avec Baptiste, il a 26 ans et il est accordéoniste. En musique toujours, comme chaque jour, c'est une chanson, fin de notre semaine consacrée à Jacques Brel. Frédéric Pommier est avec le chanteur belge Félix Radu, très inspiré par le grand Jacques.
C'est en regardant Jacques Brel interpréter ses chansons que moi j'ai appris mon métier de comédien. Je l'ai vachement pris en modèle, ouais. Je regardais tout, sa manière de se servir de ses bras pour donner corps au texte, sa diction, il avait vraiment quelque chose d'habité, quoi. Et j'espère lui avoir volé ça.
Et juste avant Madeleine, bonjour Jean-Baptiste René.
Bonjour.
Du journal L'Équipe, danser la France aujourd'hui.
Eh bien, direction Marseille, pour profiter de la présence de Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Il avait hypnotisé des millions de téléspectateurs et il fait étape pour 10 jours encore au Mucem.
Et à tout à l'heure, donc juste avant 13h55.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les TPE-PME ont bien du mal à recruter, l'APEC aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroupe Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur APEC.fr.
France Inter, partenaire de la pièce Les fausses confidences de Marivaux, mise en scène par Alain Françon. Après le succès d'Un chapeau de paille d'Italie, de La Biche, Alain Françon revient à Marivaux et explore son théâtre de stratagème. Retrouvez notamment Dominique Valadier, Gilles Privat et Georges Escalier dans ce chef-d'œuvre du répertoire où triomphe l'expression des sentiments. Les fausses confidences, actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin, un spectacle France Inter.
Le temps pour ce week-end de Pâques.
La météo
avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Une perturbation glisse sur le nord-ouest du pays.
Et le temps reste pluvieux et venteux cet après-midi en Bretagne et dans l'ouest des Pays de la Loire et de la Normandie. Et le ciel se voile progressivement à l'avant jusqu'au Limousin et au Bordelais et plus au nord jusqu'au bassin parisien. Dans le nord-est, de courtes éclaircies se développent, le risque d'averse s'estompe et partout ailleurs, le soleil domine très largement et les températures remontent. Et même si le temps est magnifique en montagne, attention aux avalanches, le risque reste fort, généralisé à toutes les Alpes, la Savoie est même repassée en orange. Cet après-midi, le vent tourne en Occitanie, des entrées maritimes gagnent le Languedoc, le vent d'autant se lève vers Toulouse et on surveille ce soir des orages en Nouvelle-Aquitaine. Un risque d'orage fort, avec de la grêle et des bourrasques, concerne les départements côtiers jusqu'en Vendée. Le risque reste plus diffus dans l'intérieur. Cet après-midi, les températures sont souvent en hausse, avec 24 à Bordeaux, 20 à Nîmes, 18 en allant de Marseille jusqu'à Lille et elles restent plus timides en Bretagne et dans le Nord-Est, avec 14 à Brest, comme à Nancy. Ce week-end sera instable, des pluies orageuses sur la façade ouest qui vont gagner. Il y aura des pluies soutenues jusqu'en Languedoc.
Merci Olivier Proust de Météo France.
France Inter. Le 13-14. Kevin Dufraîche.
Ça se passe toute la journée à Avignon, la troisième édition des États généraux de la culture, organisée par la ville. Rien de plus logique pour une cité qui accueille chaque été le plus grand festival de spectacles de vivant en France. Des États généraux nés après le Covid, période difficile pour tout le secteur. Une fois déconfinés, les Français se sont rués au cinéma, au théâtre, au musée. Mais aujourd'hui, la nouvelle donne budgétaire vient tout bousculer. Plusieurs dizaines de milliards d'économies par an sur les budgets de l'État, 40 l'an prochain, souhaite le gouvernement. Alors pour en parler sur Inter ce midi, deux invités, Cécile L. d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maire socialiste d'Avignon et puis avec nous en studio à Paris, bonjour Didier Fusilier.
Bonjour.
Vous êtes le président du Grand Palais et de la Réunion des musées nationaux. J'attends vos questions au standard 01 45 24 7000 ou via l'application de Radio France, rubrique Réagir. Cécile L., je commence avec vous puisque vous êtes l'hôte de ces états généraux. La première table ronde s'intitulait ce matin « Face aux coupes budgétaires qui menacent nos territoires et notre exception culturelle, comment résister ?» c'est ce que vous inspire la situation actuelle de la culture en France, qu'il faut résister.
Ben, je pense qu'il faut à la fois résister et puis, comme j'ai dit aussi ce matin, être debout, c'est-à-dire être aussi porteur d'une culture en mouvement et d'une culture qui, par l'action, arrive justement à trouver les chemins malgré la fragilisation qui est introduite par le retrait effectivement d'un certain nombre de financements publics, puisque ce matin, on a eu le témoignage d'un certain nombre d'artistes ou de compagnies qui, elles, se retrouvent vraiment en difficulté par rapport au territoire dans lequel elles ont l'habitude de créer et dans lequel elle s'inscrivait en contact direct avec les habitants citoyens pour faire culture ensemble.
Effectivement, les subventions des collectivités, notamment des régions, ont beaucoup baissé pour la culture cette année. Pour qu'on ait une idée, Cécile L., la culture à Avignon, c'est quel budget et est-ce que vous l'avez maintenu, vous, ou est-ce que vous avez été obligé de faire des économies, vous aussi ?
Donc nous, en fait, on a non seulement maintenu notre budget de la culture, mais on l'a renforcé parce qu'en fait, on avait décidé en cette année 2025 de fêter le 25e anniversaire d'Avignon, capitale européenne de la culture, en l'an 2000. Et donc, du coup, on a imaginé, à travers les deux premières éditions des États généraux et avec l'ensemble des acteurs culturels du territoire, une année qui permette de replacer vraiment la culture encore plus intensément dans la vie de la cité et dans la vie des Avignonnaises et des Avignonnais. Et donc du coup, on est parti sur un budget 2025 qui s'établit à peu près aujourd'hui à 18 millions d'euros pour une ville comme la nôtre, c'est-à-dire à peu près 10% du budget de fonctionnement, même un tout petit peu plus. Et donc, comme je l'ai dit, qui est un budget en progression parce qu'on produit beaucoup d'événements ou d'actes culturels. On a ouvert aussi des nouveaux lieux qu'on a mis à disposition de collectifs d'acteurs culturels. Et pour ces nouveautés qu'on propose en cette année 2025, nécessairement, ça a nécessité qu'on augmente le budget consacré à la culture.
Il faut donc comprendre que ce sont des choix politiques, finalement, Cécile L., entre vous, qui décidez de maintenir ces budgets et certaines collectivités qui décident de rogner sur les budgets de la culture.
Bah moi je pense, enfin c'est Albert Camus qui disait que la culture est toujours un combat. Et ce matin je disais que voilà, après c'est une question effectivement de choix, de conviction et de courage. Et donc la ville d'Avignon, ben comme toutes les communes de France, elle est confrontée à des difficultés budgétaires, y compris c'est une ville qui est diverse du point de vue de sa composition sociale et résidentielle. J'ai aussi beaucoup de quartiers populaires sur Avignon, avec à peu près 30% de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc qui nécessitent aussi d'être au rendez-vous de politique sociale de proximité, de politique éducative. Et pour autant, nous, on a considéré aussi que ben, pour faire cité, pour maintenir l'attractivité de notre ville, mais aussi pour se donner des temps de vivre ensemble, ben, la culture, elle était plus que jamais une réponse.
Didier Fusilier, vous êtes le président du Grand Palais. Vous avez dirigé, monté avant ça des structures culturelles. Comment vous voyez la situation d'aujourd'hui ? Est-ce que vous reprendriez, vous aussi, ce mot de résistance du monde de la culture ?
Oui, parce que vous savez, en fait, la culture, c'est quoi ? C'est le plaisir de vivre. C'est le plaisir d'être ensemble, de se rassembler, de connaître, enfin, de découvrir ce qu'on ne connaît pas, surtout. Et c'est ça le propre de la culture. Et toucher à ça, finalement, ça va retirer, ça va renfermer les gens un peu dans leur petite communauté, entre eux. Enfin, il n'y a rien de plus agréable que d'aller au cinéma, d'aller dans un grand concert, et puis on a la lumière qui s'éteint. Enfin, il y a tout le tralala aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le spectacle, il y a cette ambiance. Et moi, j'ai, dans ma carrière, toujours connu, quand on était à Lille, quand on était à Maubeuge, des craintes sur la culture. Il y a toujours des partis où il y a toujours des majorités.
C'est ce que j'allais dire, on a l'impression que c'est toujours fragile.
Oui, alors, moi j'ai connu cette incroyable aventure des années longues où le budget de la culture a doublé. Enfin, moi je rappelle quand même que le budget de la culture en France pour l'État, c'est 1% du budget de l'État. Enfin, c'est-à-dire, c'est quand même pas ça qui va ruiner le pays. Il y a toujours des gens pour venir expliquer qu'il faut casser certains théâtres, certains festivals. Et je pense qu'il faut être ferme sur l'obligation d'élever les enfants, de leur montrer des merveilles, de les emmener au théâtre. Parce que si on ne les emmène pas petits, enfants, si on ne donne pas les moyens aux professeurs d'emmener leurs enfants, aujourd'hui, avec les problèmes de Vigipirate, vous savez, aujourd'hui, ça s'est accumulé. C'est très contraignant. Enfin, pour moi, les grands héros de la République sont les professeurs qui emmènent au théâtre, au cinéma, sur leur temps de loisir, finalement, leurs enfants. Donc, c'est un combat. Et je crois que Cécile, que je connais bien à Avignon, j'ai participé aux premières assises de la culture, mène là aussi, dans sa ville qui n'est pas si simple, un vrai combat. Et c'est dommage qu'on doive parler de combat pour la culture, en fait.
On va aller au standard tout de suite. On va rejoindre Valère, qui est à Saint-Paul-les-Monestiers dans le Vercors. Bonjour.
Bonjour.
Quelle était votre question, votre remarque sur ce sujet de la culture ?
Moi, ma remarque, moi, je dirige un lieu culturel donc à 880 mètres d'altitude dans le Vercors. Et Rachida Dati nous dit déjà depuis 2 ans la ruralité. Et nous, on voit rien venir. Donc, on nous objecte le fait qu'il faut un label pour avoir des financements. Et comme il n'y a pas de label, il n'y a pas de financement. Créons un label. Je ne sais pas, ça peut être une idée.
Cécile, elle, sur cette question d'un label pour la ruralité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué dans ces états généraux de la culture ? Et plus globalement, je voulais vous demander que vous disent en fait vos collègues maires des petites communes sur la situation aujourd'hui de la culture, notamment dans la ruralité ?
Bah du coup, ce matin, sur l'une des tables rondes, on avait invité Fanny Lacroix, qui est maire de Châtel-en-Trièves, qui est une petite commune en fait de l'Isère, qui a 500 habitants. Et elle racontait effectivement comment elle essayait de construire aussi de la culture avec ses habitants, notamment autour d'une compagnie de marionnettes en fait et de création de marionnettes qui est venue s'installer dans sa commune au moment du Covid. Et c'était un témoignage qui était intéressant parce qu'on voit bien que cette posture, comme vous dites, à la fois de combat, de résistance, mais en même temps d'action, parce que c'est par l'action qu'on porte aussi l'espoir qu'un chemin est possible. C'était intéressant de voir que c'était pas une question d'opposer la ville à la campagne, mais que ces problématiques-là, effectivement, elles s'opposent partout en France. On avait le témoignage aussi de la directrice de la scène nationale de Cavaillon. Donc là, c'est un label, pour le coup, la scène nationale, et pour revenir sur votre question, et qui, elle, bien qu'implantée à Cavaillon, qui est une autre ville du Vaucluse, rayonne sur la quinzaine de communes qui est située, pour le coup, elle aussi, dans une réalité rurale, et pour aller au plus près des habitants. Donc c'est sûr que quand on cherche des financements, enfin, et il faut prendre l'État à son propre jeu, quoi. Quand il dit, il faut que vous passiez par des labels, encore faut-il effectivement qu'il crée ces labels.
On reste à Avignon, mais avec Élie Comines maintenant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du lieu unique à Nantes, scène nationale, centre d'art contemporain, bien connu à Nantes. Vous participez à ces états généraux de la culture. On voulait vous avoir pour avoir un directeur de structure culturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement aujourd'hui, là, cette année, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que vous avez une baisse de votre budget déjà et qu'est-ce qu'elle représente ?
Alors ça représente pour nous une baisse de budget qui correspond à 100% de la subvention de la région pour nous, qui était de 58 000 euros. Donc ça, c'est un impact important puisque ça va directement rejaillir sur la programmation artistique. Concrètement, ça veut dire presque 3 semaines d'exposition en moins. Ça veut dire aussi qu'il faut baisser le nombre de spectacles ou alors jouer des petites formes de manière plus fréquente. Et puis il y a l'effet indirect qui est très important, c'est que 100% de nos partenaires, artistes, compagnies, lieux, projets éditoriaux sont eux-mêmes touchés. Et donc ça veut dire que comme la culture est organisée de manière très complémentaire, c'est ce qu'on appelle les financements croisés chez nous, tous les projets sont faits à plusieurs, et bien tous les projets sont impactés.
Dans votre région Pays de la Loire, la présidente Horizon, effectivement Christelle Morancé, a décidé de faire beaucoup d'économies, 2 fois plus d'économies que ce que réclamait l'État sur son budget, et ça a beaucoup touché la culture. Vous êtes d'ailleurs mobilisé beaucoup à Nantes avec des grandes manifestations. Quelles conséquences concrètes ça a là aujourd'hui sur votre travail ? Quel choix vous avez dû faire au lieu unique ?
La principale conséquence, pour l'instant, on la sent du côté des indépendants, des artistes et des compagnies. Et là, il y a vraiment des gens qui sont dans des situations personnelles, des situations sociales qui deviennent très difficiles tout de suite. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans cette urgence-là. Il y a aussi beaucoup d'outils et de compétences qui sont menacés. Ça peut être des organes professionnels, ça peut être des compagnies dont les outils se défont. Donc c'est vraiment là que se situe l'urgence aujourd'hui.
Pardon pour cette question peut-être un peu directe et frontale, mais est-ce que vous avez des craintes sur la pérennité, en fait, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme de votre structure ?
Non, je n'ai pas de crainte. D'abord parce qu'on a un soutien très important de nos autres tutelles et au premier chef de la ville de Nantes, qui est notre principal financeur, de l'État également, du département aussi. Et surtout parce qu'on sent un très fort attachement du public, en l'occurrence au lieu unique, mais à toute la vie culturelle de ce territoire et bien au-delà de ce territoire, évidemment. Et c'est ce soutien du public qui me fait penser qu'on va s'en sortir et qu'on va devoir aussi se réinventer dans ce qui se passe actuellement.
Merci beaucoup, Élie Comines, directeur du lieu unique à Nantes. Didier Fusilier, est-ce qu'il faut maintenant, en fait, imaginer des nouveaux modes de financement pour la culture, à votre avis ? Le fait que l'État, entre guillemets, se désengage et donne moins d'argent aux collectivités qui, elles-mêmes, en donnent moins à la culture, est-ce qu'il faut trouver d'autres choses ? Le mécénat, augmenter les tarifs, peut-être, malheureusement ?
Alors, on a déjà beaucoup de mécénats, beaucoup de partenariats. Bon, c'est plus facile quand on est le Grand Palais ou le Louvre, évidemment, qu'une petite structure en province. Mais on trouve des financements. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y a plus de subventions, on va se retrouver avec des places de théâtre à 50, 60 euros. L'État, les collectivités, quand elles aident aussi le public pour pouvoir emmener. Ou alors, on va se retrouver avec les parents qui vont y aller sans les enfants parce que c'est trop cher. Et il faut bien imaginez que derrière, évidemment, la situation qui peut être critique pour certains artistes, qui sont fragiles, évidemment, c'est aussi le public qui va payer. Donc, il faut prendre conscience de tous ces problèmes. Et derrière, ça impacte aussi le tourisme. Enfin, je ne sais pas, enfin, des présidents de région qui commencent à tailler comme ça, à ce point-là, dans des budgets, ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils vont avoir sur leur patrimoine, sur leur château. Enfin, c'est une dégringolade. Donc, on peut imaginer pendant un temps très court, et nous sommes aussi impactés au Grand Palais, aller comme toutes les grandes structures. On doit montrer l'exemple, c'est normal quand on est dans des situations, dans les passes difficiles. Mais c'est hyper temporaire. Tandis que là, on sent quand même une dérive dans certaines régions qui est problématique.
J'allais dire, et peut-être pour terminer, Cécile, elle, pour me faire l'avocat du diable, vu qu'il faut faire des économies, en tout cas le gouvernement dit qu'il faut faire des économies, la dette est un problème, est-ce que tout le monde ne doit pas prendre sa part, et donc le monde de la culture lui aussi?
Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Voilà, parce que, y compris nous, dans l'expérience qu'on a autour de Avignon Terre de Culture 2025, et c'est ce que je disais ce matin, ça peut amener le monde de la culture, en partenariat avec les élus qui le soutiennent et dont je fais partie, à essayer d'inventer des nouvelles formes aussi, où finalement, en créant du collectif, en créant une solidarité aussi entre artistes, acteurs culturels et élus au sein d'un même territoire, on arrive et on continue à produire de la culture, alors qu'il y a une culture différente. Donc moi, j'aurais tendance à dire que, bien sûr, qu'il faut maintenir les financements à la culture. Et moi, je pense que le diktat qui voudrait dire que il faut faire des économies, certes, mais en même temps, quand vous interrogez les Français, ils demandent à ce qu'il y ait plus de services publics, ils demandent à soutenir l'hôpital, ils veulent une école de qualité. Donc on est aussi depuis toujours sur une République qui a des fondements, et je pense que la culture est un des fondements de la République et de notre pays. Et donc, en tout cas, moi, je défends l'idée qu'au contraire, il faut la soutenir, et que s'il y a des économies à faire, c'est pas là qu'il faut les faire.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cécile Hel, maire d'Avignon. Bons états généraux de la culture à vous. Merci Didier Fusillier, président du Grand Palais et de la Réunion des musées nationaux, d'avoir été avec nous sur Inter ce midi. Et là aussi, c'est de la culture. Dernier jour à la guinguette, le feuilleton nous fait parcourir le Berry depuis lundi à la rencontre de musiciens de bals populaires. Hier, en fin de reportage, vous avez entendu la relève. Baptiste Auclair, accordéoniste de 26 ans. Dans sa famille, ça fait 4 générations qu'on joue de l'accordéon pour faire guincher les habitués des bals. Cécile Bidot l'a rencontré lors d'un thé dansant à Château.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous.
L'esprit du bal populaire en France a toujours été, hein. Je veux dire, les bals, il y en a toujours eu. Et même si des fois le public peut sembler peut-être un peu plus vieillissant ou qu'il y ait moins d'associations, ce genre de choses, on voit quand même dans certains endroits un public un peu plus jeune. Et donc ça nous rassure quand même sur le fait qu'il faut continuer à persévérer et puis à garder un pan de l'histoire musicale française.
Bien bonjour, je suis Baptiste Auclair, accordéoniste, chanteur. J'ai 26 ans. J'ai plein de collègues de mon âge qui sillonnent les routes de France comme nous, dans les bals. Moi, j'essaye de défendre le beau musette, justement, qui ne ringardise pas les choses, parce que effectivement, dans le bal, on peut avoir des fois quelques morceaux, quelques trucs axés très commercial, qui peuvent être un petit peu apparentés à quelque chose de... pas ringard, mais un peu désuet, quoi. Mais moi, j'essaye de faire autre chose.
Alors justement, petite démo.
Voilà, ça c'est un air que tout le monde connaît maintenant, à l'heure actuelle.
Vous jouez tout à l'oreille?
Tout à l'oreille.
Alors là, on se trouve dans une guinguette à Châteauroux.
Comme tous les dimanches, il y a un thé dansant, avec nos habitués danseurs. Donc c'est un peu comme une famille, quoi, quand on a des habitués qui viennent souvent à notre rencontre, danser dans nos prestations. On crée des liens, et puis le fait que je sois jeune aussi peut-être amplifie les choses, mais il y a un bon échange.
Eh bien moi je suis Maxime Maillot, je suis le gérant de la guinguette depuis 2 ans maintenant, même si c'est un établissement qui est au moins de la famille entre guillemets depuis une quinzaine d'années maintenant. Bah écoutez, moi j'ai 35 ans, j'ai un accordéon tatoué sur le mollet, je trouve pas ça ringard du tout. Après oui évidemment c'est plus la musique que les jeunes ont l'habitude d'écouter, mais moi je trouve pas ça ringard justement, c'est l'histoire un petit peu de la France et c'est important de garder ce patrimoine.
Tu as quel âge ?
10 ans et demi.
Tu t'appelles comment ?
Lola.
Et alors là, les danses de salon, tu sais danser quoi ?
Presque tout. Le boston, la valse, la marche, le cha-cha-cha, le charleston. Ah oui, le tango. Moi, j'aime bien.
Tu trouves ça moderne ?
Pas trop moderne, mais ça me dérange pas.
Dans le musette, en tout cas, il y a encore quelques belles années. Mais au pire des cas, si vraiment il y avait un déclin, on s'adaptera. Enfin, je veux dire, l'accordéon peut tellement être joué dans plusieurs choses que moi, je me dis que l'instrument lui-même, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vivre de notre musique, même si c'est un style différent. C'est un instrument actuel, d'hier, d'aujourd'hui. Et à partir du moment où on lui met les bonnes notes et les bons morceaux, ça peut plaire à des gens de 17 ans comme à des gens de 70 ans, quoi.
Une semaine dans leur vie, les musiciens de bal, feuilleton signé Cécile Bideau. Cette semaine, réalisation Stéphane Ronxin. Et vous retrouvez tous les épisodes sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, c'est la France du sport avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, nous allons à Marseille où l'on peut admirer une fascinante créature.
Une fascinante créature et aussi une star nationale, puisque Zeus, le cheval métallique qui galopait sur la scène pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, est actuellement en tournée en France. Et c'est effectivement au Mucem qu'il vient de poser ses sabots après une inauguration en présence de Thomas Joly, grand maître du show de Paris 2024. Jusqu'au dimanche 27 avril, il est donc possible d'admirer la monture sur le toit-terrasse du musée marseillais. Toutes les 4 minutes, les quelques 287 kilos de fonte d'aluminium, recouverts de feuilles d'argent, s'animent pour reproduire le mouvement qui a hypnotisé des centaines de millions de téléspectateurs. Alors il manque juste la scène au-dessus de laquelle Zeus semblait glisser le soir du 24 juillet, quand il s'était lancé à 22h09, mais un tout petit peu d'imagination suffit pour que ressurgisse la magie des Jeux. Tout cela grâce au savoir-faire de deux entreprises françaises, l'atelier Blam, installé à Couëron, tout près de Nantes, qui a dessiné l'animal, 1m80 au garrot, et la société bretonne MM Process, qui lui a donné vie en concevant notamment le trimaran sous-marin qui l'a tracté sur les 6 km de son parcours au pied des monuments de Paris.
Ah, il manque la Seine, mais il y a quand même la Méditerranée en fond, c'est pas mal non plus. Au Mucem, Zeus se présente sans son moteur, un secret, ni son mystérieux cavalier, on s'en souvient.
Oui, ou plutôt sa mystérieuse cavalière, oui. Puisque c'est une femme, Morgane Sucard, cofondatrice de MM Process, qui a chevauché le destrier, drapeau olympique sur les épaules et visage dissimulé derrière une immense capuche. Sacré destin pour cet anonyme qui a incarné Sécana, figure de la mythologie gauloise en tant que déesse de la Seine. Cette cavalière d'argent a en tout cas contribué à faire de Zeus et de cet instant un objet de la mémoire collective qu'entretiennent également d'autres costumes emblématiques de la cérémonie d'ouverture. Ainsi, certaines pièces vont faire leur entrée dans la collection permanente du Mucem, comme le costume de Marie-Antoinette décapitée, celui du porteur de flammes masqué ou celui des derniers relayeurs. Un an après l'arrivée du Bellem, Marseille entretient la flamme olympique. Mais partout en France, ces objets sont une manière de raviver le souvenir des Jeux.
À quoi vous pensez ?
Eh bien, on parlait tout à l'heure des costumes. Le Musée National du Sport à Nice va par exemple récupérer la tenue du mystérieux porteur de flammes, sautant de toit en toit, ou encore la couronne et les guirlandes portées par Philippe Catherine dans un appareil que personne n'a oublié. Dimanche dernier à Paris, une vente aux enchères de divers objets liés aux Jeux de Paris a rapporté 230 000 euros qui seront versés à des œuvres caritatives. On trouvait là des torches, des tenues de bénévoles ou d'arbitres, des friges et même le pupitre derrière lequel Tony Estanguet a prononcé son discours d'ouverture. Quant à Zeus, pourtant dieu du ciel, il est la propriété d'un grand groupe pharmaceutique. C'est une considération beaucoup moins poétique, mais elle n'ôtera rien au magnétisme de cette créature décidément
unique.
Qui est effectivement en tournée, par exemple à Bordeaux du 3 au 9 mai ou encore au Mont-Saint-Michel, tient du 12 juillet au 7 septembre. Merci Jean-Baptiste René. De C'est la France à C'est une chanson, avec la fin de notre semaine spéciale dédiée aux chansons de Jacques Brel. Frédéric Pommier a remixé pour nous certaines de ses chroniques. Aujourd'hui, nous réécoutons son entretien avec le jeune comédien et chanteur belge Félix Radu. Il avait choisi d'évoquer un titre de 1961, Madeleine. Jacques Brel a énormément compté pour lui, surtout dans son enfance. Félix Radu le considérait comme un ami.
À vrai dire, je ne sais même pas comment est-ce qu'il est rentré dans ma vie. Parce que moi, mon père écoutait plutôt Manu Chao, les Red Hot Chili Peppers, ma mère, elle écoutait Grand Corps Malade, etc. Mais Jacques Brel, non. Et c'est chez mes grands-parents, je pense, que j'ai vu des vinyles et que j'ai tapé sur Google vite fait et que j'ai été pris d'admiration pour le mec, quoi. Genre, je l'écoutais en boucle, je voulais tout retenir de lui, quoi. Autant ses interviews que ses chansons, d'ailleurs.
C'est très difficile de dire aux gens qu'on les aime. Enfin, c'est emmerdant, ce mot a été tellement pillé, détruit. Enfin, il veut plus rien dire exactement. Et puis, j'y arrive pas bien à leur dire. Alors, parfois, j'écris des chansons qui me paraissent, moi, des chansons, pas d'amour, mais des chansons de cette sorte d'amour qui me tient debout, finalement, dans la vie.
Vous avez quel âge ? Un peu moins de 10 ans quand je le découvre. Et puis ça continue comme ça plusieurs années, parce que c'est vraiment une passion qui m'a longtemps tenu, quoi, que j'ai gardé jusqu'à mes 17 ans, ouais, 18 ans. Je le kiffais vachement longtemps.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là.
Demain j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai je t'aime, et Madeleine elle aimera ça. Madeleine, c'est celle qui me parlait le plus quand j'étais gamin, parce que je me suis longtemps senti très tout seul quand j'étais petit, et j'ai longtemps eu cette conviction de ne pas être assez bien pour être aimé, et j'ai longtemps attendu Madeleine pour prendre le bus, et puis bah, finalement j'ai décidé de prendre le vélo.
Elle s'appelait comment, votre Madeleine ?
Ouh là là, il y a eu Madeleine, il y a eu Louison, il y en a eu beaucoup, donc on donnera pas de nom, mais il y en a eu beaucoup.
Est-ce que quand vous entendiez cette chanson-là, vous aviez conscience aussi de la drôlerie de l'écriture et de la narration ?
Oui, bien sûr. Elle est très drôle, cette chanson. Et c'est ça, la force de Jacques Brel, c'est que toutes ces chansons peuvent être aussi drôles qu'aussi tristes, quoi. Et c'est parce qu'elles sont drôles qu'elles sont tristes, et c'est parce qu'elles sont tristes qu'elles sont drôles.
Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas.
En fait, ce qui me touchait chez Jacques Brel, c'était son ratage complet avec l'amour et les filles, quoi. Et je m'y retrouvais beaucoup parce que j'étais très timide, et j'aimais terriblement la maladresse gracieuse que Jacques Brel avait, quoi. Parce que vraiment, pour moi, c'est de la grâce, cette maladresse. Il a quelque chose de trop grand dans son costume, un peu grand bénet. Et quand il se met à chanter, il a de la grâce qui émane de lui. Et j'espérais de tout mon cœur pouvoir transformer ce qui me semblait être un boitement comme un pas de danse, quoi. Et c'est par le théâtre que moi, j'estime essayer de le faire.
C'est lui qui vous a donné envie de faire du théâtre ?
Il m'a pas donné envie de faire du théâtre. Par contre, il m'a appris comment le faire. Et c'est en regardant Jacques Brel interpréter ses chansons que moi j'ai appris mon métier de comédien. Je l'ai vachement pris en modèle, ouais. Je regardais tout, sa manière de se servir de ses bras pour donner corps au texte, sa diction. Il avait vraiment quelque chose d'habité, quoi. J'espère lui avoir volé ça.
Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas, elle est...
Lui, il n'était déjà plus en vie quand vous avez commencé à l'écouter.
Oui. Et c'est ma grand-mère qui m'a un jour dit « Mais tu sais que Jacques Brel est mort, Félix ? Genre, il fait pas partie de notre génération. Hein. » Et je l'ai pas cru. Genre, j'ai dit « Mais non, Jacques Brel peut pas être mort, c'est impossible. » Et quand j'ai découvert qu'il était effectivement mort, bah, ça a été un des drames de mon existence, quoi. J'ai beaucoup pleuré dans ma chambre, parce que pour moi, je perdais un ami, quoi. J'avais qu'une seule envie, c'était réussir à faire ma carrière et faire un duo avec Jacques Brel, ou lui serrer la main, et lui dire merci, ou lui dire je t'aime, lui dire... C'est cool, quoi, d'être deux, c'est cool. Et puis, bah, je suis arrivé trop tard, quoi.
Je lui dirai des je t'aime, mais Madeleine, elle aimera ça.
Jacques Brel, Madeleine, c'était donc le choix du comédien et chanteur Félix Radu avec Frédéric Pommier. Une interview qu'on avait pu entendre déjà en novembre 2022. Les remerciements à l'équipe du 13-14 cette semaine. À la technique, c'était Fabrice Desmaz et Philippe Duclos. À la rédaction en chef des journaux cette semaine, Manuel Ruffez et Lionel Thompson. Assisté de Rachid Zourdani, Nicolas Sabat, Swad Bellamy, Sylvain Lesage et Antoine Galen. La rédactrice en chef du 13-14, c'est Cécilia Arbonin. Notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet. Notre attachée de production, Joseph Ascal. Et merci à tous les standardistes de la semaine.